Bonjour Loïc Quentin, vous êtes le président de la FNAIM. Alors la FNAIM, ce sont les professionnels de l'immobilier, c'est une association de référence qui est connue même du grand public. Et là où vous êtes placé, de votre point de vue, vous pouvez analyser le marché à 360 degrés, du côté des professionnels comme du côté des particuliers. La question qui se pose en ce moment, c'est comment faciliter le développement d'un pays de propriétaires, que les jeunes puissent accéder à la propriété. On voit que c'est loin d'être facile. Et vous avez aussi réfléchi sur ce sujet.
Oui, parce que la France, contrairement à ce qu'on pense, accuse et affiche désormais un nombre de propriétaires de leur résidence principale en recul. C'est la première fois depuis de nombreuses années. Ce chiffre est en recul et parce qu'il démontre aussi la difficulté pour de nombreux Français d'accéder à la propriété. Ceux qui sont nés dans les Trente Glorieuses ont pu bénéficier de prix intéressants, de périodes de croissance et devenir propriétaires. Et ceux qui doivent aujourd'hui recourir à l'emprunt sont confrontés à de grandes difficultés d'octroi, et notamment particulièrement dans une période où les taux sont repartis à la hausse. Alors, taux repartis à la hausse, on a connu ça par le passé, mais c'est une nouvelle période qui s'inscrit et qui s'ouvre pour les accès dans la propriété, puisqu'on n'avait pas connu de hausse réelle des taux d'intérêt, depuis le développement de l'immobilier dans les années 95, quoi, où les prix ont été sans cesse portés à la hausse. Alors, on a connu un épiphénomène en 2008, après la crise des subprimes, avec une remontée des taux et puis ensuite une redescente. Mais aujourd'hui, le paysage économique s'inscrit bel et bien dans un environnement où les taux bancaires sont repartis à la hausse et de plus belle. On anticipe, voire même, une progression des taux qui pourrait flirter avec les 4% à la fin de l'année 2023. C'est-à-dire que c'est presque 4 fois plus qu'il y a 2 ans et demi. Une progression qui est qui met à mal la capacité d'emprunt des ménages français, et notamment des primo-accédants qui vont être là les plus fragilisés parce que c'est leur première acquisition. Ils ne sont pas déjà propriétaires, disposent d'un apport personnel beaucoup plus faible, et sur ce point, ont beaucoup de mal à obtenir un prêt. La capacité d'emprunt se trouve largement réduite avec la hausse des taux. Alors, que faire face à une situation comme ça? La question reste posée, parce que si le marché ne bouge pas, eh bien on évolue vers un marché d'exception. Et pour moi, le marché d'exception, c'est un marché d'exclusion, et d'exclusion de ceux qui ont les pouvoirs d'achat les plus faibles. Alors, bien évidemment, on le sait toujours que quand un marché voit ses volumes s'effondrer ou chuter, comme on le pense, 2023, ça sera certainement une année de correction des volumes. On estime que environ nous atteindrons 900 à 950 000 transactions, alors que nous l'avions connu il y a encore moins de deux années, 1 217 000 transactions enregistrées sur une année lycée. Alors, correction des volumes, mais la correction des volumes ne corrige pas pour autant les prix. Mais généralement, quand les volumes baissent, c'est l'expression d'une baisse de la demande et qui va effectivement amener une baisse des prix. Mais dans combien de temps? Elle commence aujourd'hui à montrer du doigt, parce que les vendeurs confrontés à des acheteurs de moins en moins solvables vont devoir composer et baisser leurs prétentions de prix à la baisse. Ça, c'est mécanique, mais il va falloir comme du temps. Mais par rapport à ça, la vraie question, c'est comment redonner du pouvoir d'achat aux Français face à la pierre. Eh bien, tout simplement, moi j'ai porté une proposition qui n'a pas reçu d'opposition, mais qui n'a pas reçu non plus, de validation, et qui n'a pas encore fait débat. Mais la FNAIM m'entend bien, poursuit ce débat. Moi, je me réfère à des périodes antérieures où, en période de taux, vous savez, on a connu une crise énergétique par le passé, en 1973, à laquelle avait succédé une augmentation des taux et une inflation. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à peu près dans la même période. C'était après la guerre du Kippour en 73, et l'augmentation des taux a perduré et a continué jusqu'en les années 1983-84. Et à cette époque-là, on était bien évidemment, les Français étaient confrontés à cette hausse des taux. Et à l'époque, avaient pu profiter notamment des dispositifs de conditions qui existaient dans les contrats de prêt, qui permettaient le transfert du prêt à un acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur, il reprenait le bien immobilier qui était vendu avec le prêt qui était en cours. La banque avait escompté son résultat, avait fait son prêt, Et quand un acheteur voulait racheter un bien immobilier sur lequel existait encore un prêt en cours, rachetait, reprenait le même prêt, les mêmes engagements que le vendeur. C'est une possibilité qu'on pourrait aujourd'hui réintroduire dans les contrats de prêt. La deuxième possibilité, c'est qu'une disposition qui existait, qui avait été mise dans les contrats de prêt des banques dès 2008, c'était finalement de permettre la portabilité du prêt en cours par un acquéreur. Je m'explique, quelqu'un, vous avez acheté un bien immobilier à un taux de 1%, et demain matin, 3 ans après, vous êtes muté, vous êtes obligé de quitter la ville, et vous voulez bien évidemment acheter ailleurs. Vous allez donc vendre, mais vous conservez la possibilité, l'option d'avoir la portabilité du prêt que vous avez contracté à 1%, que vous reportez sur un autre bien immobilier que vous allez acheter ailleurs. Voilà, c'est une disposition simple. Et aujourd'hui, plus on tarde à entrer ce débat, plus les taux vont monter. Bien évidemment, les Français n'en profiteront pas. Donc, il faut rapidement que ce dispositif puisse être négocié avec les établissements bancaires et qu'on introduise cette portabilité ou cette transférabilité dans les crédits qui seront octroyés aux ménages. Voilà, donc deux leviers pour redonner du pouvoir d'achat. Bien évidemment, il y a le levier mécanique qui est à la baisse des prix, qui est l'expression du marché, mais qui est inévitable. Les prix seront
Bien
malheureusement
sûr.
orientés à la baisse, hein, c'est inévitable. Et deuxièmement, accompagner au mieux des ménages, notamment sur des possibilités de financement qui étaient permises aujourd'hui, qui sont encore permises aujourd'hui, qui étaient permises hier, encore permises aujourd'hui, mais qui ne seront peut-être pas demain, quoi. Personne ne peut présumer de l'évolution des taux d'intérêt. Je ne voudrais pas faire de comparaison avec les années 80, où, rappelons-nous, nous avions atteint des taux de 17% de financement des acquisitions immobilières. Aujourd'hui, on n'en est qu'à 3, 3,5%. Mais il faut mieux plutôt faire du préventif, anticiper éventuellement une situation qui pourrait s'aggraver et permettre d'accompagner les Français et de leur donner du pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui,
17%
bien
pour
évidemment.
l'immobilier, vous dites dans les années 80. Je me
Oui.
souviens, il y a parfois même des crédits à la consommation montés à 25%. Hein.
Ah oui, bah le taux d'usure était à 19 ou 20% en matière de crédit à la consommation. Donc c'était une période c'était une période inflationniste. Mais aujourd'hui, on a tous les éléments, on a une crise de l'énergie, on a un retour à l'inflation et une hausse des taux.
Mais
Nous avions
alors.
les mêmes mécanismes en 1973.
Mais alors, Loïc Quentin, ce qui est intéressant dans vos propositions sur la possibilité de portabilité, de porter son prêt, on est muté, on veut vendre sa maison, et bien la personne récupère le prêt immobilier au même taux, c'est que cela ne me semble même pas relevé de la loi. C'est la liberté de contracter. Donc,
Ah, mais bien
c'est juste
évidemment,
les banques, il faut simplement qu'elles acceptent.
Mais tout à fait.
Vous n'avez
Elles l'ont
pas besoin
accepté un
de passer
moment.
par une proposition de
Non,
loi, c'est ça qui est intéressant.
voilà. Mais je dirais que un message de l'État, une communication de l'État, un tour de table avec les banquiers, visant finalement à accompagner les ménages dans une période compliquée comme celle-ci, serait de bon ton quand on veut redonner du pouvoir d'achat aux ménages français. C'est tout simple. Maintenant, sur les nouveaux prêts qui peuvent être faits, bien évidemment, on peut inscrire une disposition contractuelle. Et on peut l'inscrire aussi dans les prêts. C'est une négociation à avoir, hein.
Dans votre analyse, Loïc Quentin, je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Vous rappelez que de plus en plus de jeunes vont être exclus du marché immobilier à travers
Oui.
l'accès à la propriété. J'allais vous
Oui.
répondre, à la limite, c'est pas très grave. On a tous connu cette période. C'est pas très grave si en face il y a un marché de la location qui est dynamique. Or là,
Ah.
le marché de la location, il n'existe plus. Une certaine époque, on pouvait se ret... il y avait beaucoup d'investisseurs privés, on arrivait toujours à se débrouiller dans les petites annonces, et il y avait pas mal d'institutionnels aussi qui louaient.
Oui, vous avez raison, parce que si vous voulez, il n'y a que deux façons de se loger, on est soit locataire, soit propriétaire. Quand on échoue face à l'accession à la propriété, on est obligé de rester locataire. Mais à la condition que le parc soit organisé, soit stabilisé, il soit en croissance, il soit alimenté, il soit accompagné. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, le seul message sur les axes et sur la politique du logement que nous recevons, le message du président de la République, c'est l'immobilier, c'est la rente. Non, monsieur le président, l'immobilier, c'est pas la rente. L'immobilier sert effectivement à loger les Français. Et quel que soit le statut, qu'on ait une préférence pour l'accession à la propriété ou la location, il faut au moins soutenir un de ces leviers-là. La location, c'est finalement l'essentiel C'est un outil, c'est une disposition d'accompagnement du parcours résidentiel de tous les Français.
Parce qu'à
Si
tout
les Français
moment
ne
dans
trouvent
sa
pas de...
vie, on a besoin d'être locataire. On
Eh
est
oui, parce que...
en couple
Voilà.
avec un divorce difficile, brutal, du
Oui.
jour au lendemain, il faut être locataire. On se lance dans la vie active, on est muté, on a besoin d'être locataire. Enfin bref, ça nous concerne tous.
Bien sûr, bien sûr. C'est la raison pour laquelle il faut accompagner l'un de ces secteurs. Il faut donner, permettre aux Français de se loger, soit alors stabiliser un parc locatif. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus de Français, finalement, risquent d'orienter leur épargne vers d'autres dispositions, puisque, vous savez, être propriétaire bailleur aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Vous avez le poids, l'encadrement des loyers, répondre à un permis de louer, vous avez des diagnostics infinis. Il y a une obligation de rénovation énergétique sur les FSG en 2025 et 2028. Vous êtes effectivement dans le secteur locatif qui est le plus imposé, puisque le taux marginal d'imposition est au maximum, peut aller jusqu'à 57%. Quand les actions sont taxées à 30%, vous subissez une taxe foncière, votre immobilier est encore soumis à l'impôt sur la fortune immobilière quand on a exonéré d'autres classes d'actifs. Voilà autant de
Et quand
signaux
vous êtes
qui sont
propriétaire, vous
extrêmement mauvais.
tremblez chaque mois à l'idée de ne pas être payé de votre loyer.
Ah bah, l'idée de ne pas être payé, l'idée d'être squatté, et puis en plus avec un rendement qui aujourd'hui est en retrait, quand vous avez une hausse des taux, être un capital risqueur en investisseur immobilier et acheter de la pierre avec des taux d'intérêt qui sont en élévation, et que les taux de rendement, eux, ne bougent pas, face à des loyers qui ne peuvent pas augmenter parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat des Français en face, c'est très compliqué et on remet en cause leur rentabilité de l'investissement qui a été effectué. C'est mécanique, c'est simple, il faut être pragmatique. Mais il faut des signaux forts, il faut des signaux d'accompagnement français. Nous, on est pour remettre sur la table toute la fiscalité de la location et avoir un véritable statut du bailleur privé en France. Voilà,
Mais
il faut
Loïc
se
Quentin,
poser
le
la vraie question.
gouvernement vous répond, on fait les choses très bien, puisqu'on a fait la loi climat, et grâce à notre action, des millions de logements vont être rénovés. C'est ce que j'entends,
Ah,
c'est ce qu'ils vous
donc,
répondent, hein, c'est pas...
oui. Oui, bien sûr, mais moi je dis que la temporalité de la puissance publique n'est pas celle du marché et de la vie dans les copropriétés, parce que aujourd'hui les décisions, si les réflexions sont
Et
engagées,
pas que de la vie, et du
finalement,
porte-monnaie aussi de beaucoup de propriétaires.
et de beaucoup de propriétaires, et puis encore la rénovation énergétique, nous il faut avoir des entreprises qui soient disponibles pour effectuer ces travaux. Il faut qu'on ait tout le process d'engagement des copropriétaires sur ces processus de travaux, la consultation des entreprises, les plans pluriannuels de travaux. Il y a un trait de travail à faire et ça va pas se faire le lendemain, et certainement pas pour 2025 et encore 2028. Et je rappelle quand même que vous prenez rien qu'une ville comme Paris, 40% des logements sont classés F et G. Et puis que dire? Rénover énergétiquement un bâtiment à colombage, on sait pas faire. Rénover énergétiquement un immeuble du 18e, il faut réduire les surfaces intérieures, casser les moulures et enlever certaines cheminées. Ouais, il y a des tas de dispositions qui sont pas réalisables et aujourd'hui, je pense que les mesures qui sont prises auraient mérité des études d'impact beaucoup plus approfondies qu'elles ne l'ont été effectuées. On se rend compte aujourd'hui de la complexité et de la difficulté à atteindre des objectifs qui nous sont assignés dans un délai qui n'est pas atteignable.
J'ai une dernière question à vous poser. On va quitter Paris, ces problèmes de logement. Vous avez évidemment dans vos revues de presse lu tout ce qui se passe en Bretagne, ce mouvement de contestation contre les résidences secondaires qui font monter le prix des maisons, donc les locaux ne peuvent plus se loger. Et face à cela, eh bien, vous entendez de plus en plus d'organisations, souvent d'extrême gauche, mais qui se font clairement entendre, que ce soit en Bretagne, mais ça peut être aussi au Pays Basque, ou sur la Côte d'Azur, dire il faut taxer, il faut confisquer, il faut empêcher, il doit y avoir un statut du résident secondaire qui doit être surtaxé par rapport au résident permanent. Ma question est simple, est-ce que face à l'absence, si on ne trouve pas de solution, on risque de laisser se développer de plus en plus de discours portant atteinte à la liberté privée, à la propriété privée.
Oui, hier, je participais à une réunion à Biarritz, sur le Pays Basque, notamment sur le problème que vous posez, sur l'attrition du logement locatif dans les zones touristiques. Alors, je dirais, faut-il se plaindre que des zones, finalement, connaissent un succès et deviennent attractives? Moi, je dirais que, entre être dans le Pays Basque, être sur la côte bretonne et avoir un afflux de population, et être dans le Cantal, et voir au contraire une population qui diminue de logements qui sont vides et qui ne trouvent pas preneur, faut effectivement choisir. Je crois que tous les Français sont pas, tous les territoires ne sont pas égaux à la matière. Alors c'est vrai que, bien évidemment, il y a un afflux, il y a un afflux sur tout le littoral français, et notamment de nouveaux résidents. Vous savez, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui sont devenus propriétaires de leur résidence principale et qui sont à l'approche de la retraite, deviennent pré-retraités ou retraités, eh bien, finalement, vendent leur résidence principale là où ils habitaient et puis se rapprochent de la côte. Et oui, il y a une migration, ça fait partie des mouvements de population qu'un
Oui,
pays
mais ce
comme
Parisien
la
qui va
France
s'installer sur la côte, il libère un appartement à Paris aussi pour un jeune couple qui, lui, va travailler à
a.
Paris.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est le mouvement, c'est un mouvement pendulaire qui a toujours existé. La seule problématique, comment on fait de la politique du logement? Est-ce qu'alors on fait que de la fiscalité, on fait que de la sanction et pas de l'incitation? Ou est-ce qu'on fait de la programmation? La vraie question, c'est que aujourd'hui, autrefois, nous avions des ministres du logement qui projetaient, qui avaient une vraie vision de l'accompagnement des Français avec le logement, qui faisaient de l'aménagement du territoire aussi. Et c'est-à-dire que le logement se conçoit, il faut faire de la projection à 30 années. Aujourd'hui, on fait du court-termisme, de la mesurette pour effectivement résoudre des problèmes qui sont identifiés trop tardivement. Il faut faire de l'anticipation. Et puis aussi, il faut aménager le territoire. Quand il y a des mouvements migratoires, il faut accompagner les Français avec leur parcours résidentiel et notamment avoir une véritable politique d'aménagement, de construction, de nouveaux logements, d'identification, de rénovation, de restauration. Et on fait pas la politique du logement, c'est pas une ligne finalement comptable et fiscale dans la loi de finances, certainement pas ça. Ceux qui pensent ça font une grossière erreur. Alors taxer pour éviter qu'il y ait un développement, mais franchement, s'il y a des déplacements de population et qu'il y a des territoires qui se remplissent, c'est bien pour le territoire, c'est bien pour la croissance économique. On va pas rester figé dans un développement. Il faut s'ouvrir, au contraire, sur ces nouvelles, mais il faut les identifier. Et puis là, il y a des solutions communes, collectives, qui peuvent être prises entre tout, entre les professionnels, entre les élus, entre l'ensemble de la société civile, parce que le logement, c'est l'affaire de tous, et c'est pas uniquement l'affaire des politiques.
Alors quand on vous entend, vous qui êtes président de cette première organisation syndicale des professionnels de l'immobilier, jusqu'à présent, tout se faisait de façon assez feutrée dans les discours, l'état du logement, quelques propositions. J'ai l'impression que Loïc Quentin, que la FNAIM, est-ce une volonté de votre part, tape de plus en plus du poing sur la table, se syndicalise finalement de plus en plus au sens pas au sens caricatural, mais au sens premier du terme. Bref, que vous allez l'ouvrir maintenant pour défendre l'immobilier. Est-ce que je me trompe ou pas?
Ah ben, vous ne vous trompez pas, je suis en fonction depuis le 1er janvier, et puis mon rôle, je suis élu pour ça, parce que voilà, j'ai toujours fait du syndicat, j'ai toujours œuvré effectivement dans l'intérêt du logement, et une fédération comme la nôtre, elle doit être force de proposition, puis on est agitateur d'idées aussi, on n'est pas là pour laisser des situations effectivement s'enliser, et la situation aujourd'hui, elle est trop grave, quoi. Tous les signaux sont au rouge à tous les étages, et malheureusement, on a l'impression d'un gouvernement qui ne veut pas entendre, oh, qui entend, mais qui ne veut pas prendre les dispositions et les bonnes mesures. Mais je crois que, vous savez, il y a aussi un ensemble du milieu associatif, du milieu syndical, du milieu de tout l'ensemble des fédérations, et aussi dans le monde politique, que ce soit les députés, les sénateurs, aujourd'hui qui prennent conscience de la gravité de la situation. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les mois et les années à venir vont être productifs, je dirais, de redressement d'une situation qui va devenir intenable si on continue comme cela.
Merci Loïc Quentin, vous êtes le président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier.